Radio France Internationale, il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Martin Guez, à la une déclaration d'indépendance économique selon Donald Trump, une déclaration de guerre commerciale pour le reste du monde.
Oui, des taxes dans tous les sens, des réactions en avalanche. Donald Trump a fait les choses en grand et a dégainé son arsenal douanier de 10 à 54%. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et nous serons notamment en direct de Chine avec la Broadhurst. Pékin particulièrement visé par ces nouveaux droits de douane.
Et direction Port-au-Prince, ensuite pour notre dossier du jour.
Où les habitants sont en colère, les gangs qui contrôlent désormais 85% de la capitale haïtienne étendent leur territoire jusqu'à Mirbalé, à une cinquantaine de kilomètres. En Birmanie, nouveau bilan, plus de 3000 morts après le terrible séisme de vendredi dernier. L'aide humanitaire tarde à arriver et la junte qui annonce un cessez-le-feu avec les rebelles pour reconstruire le pays. Enfin, nous terminerons à Vienne, dans l'Isère, en France, où une famille s'attaque au géant Bayer Monsanto. En cause, un herbicide du groupe utilisant du glyphosate qui a provoqué de graves malformations au fils de la famille Grattalou.
Chacun sa taxe. Donald Trump n'oublie personne et inonde la planète de droits de douane.
Ce qui est diversement apprécié, l'industrie automobile allemande déplore par exemple un accord perdant-perdant. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dénonce elle un coup majeur porté à l'économie mondiale. Et elle assure que les Européens sont prêts à répondre. L'Union européenne sévèrement taxée à hauteur de 20% sur tous les produits qu'elle exportera aux États-Unis. Les milieux économiques du monde entier font la grimace et Donald Trump était lui tout sourire hier soir au moment de lancer sa guerre économique mondiale, Guillaume Nodin.
Il l'annonçait depuis des semaines, il l'a fait pour Donald Trump, ce qu'il appelle le jour de la libération et l'une des journées les plus importantes de toute l'histoire des États-Unis.
C'est notre déclaration d'indépendance économique. Depuis des années, les citoyens américains qui travaillent dur étaient laissés de côté, alors que d'autres nations devenaient riches et puissantes, et ce, largement à nos dépens. Mais c'est maintenant à notre tour de prospérer et ainsi d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et notre dette publique. Et cela va arriver très vite.
Et Donald Trump de brandir un tableau qui détaille les droits de douane qu'il impose sur les produits de toute une liste de pays. C'est 10% minimum et parfois plus en fonction des barrières douanières imposées par ces pays, sans que personne ne comprenne vraiment comment tout cela est calculé. 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 20% pour les pays de l'Union européenne, 21% pour la Côte d'Ivoire et même 50% pour le Lesotho. Dans cette liste, on note les absences du Mexique et du Canada, particulièrement visées ces dernières semaines, mais aussi celles de la Russie. Enfin, à ceux qui voudraient négocier, Donald Trump conseille de commencer par faire baisser leurs propres barrières douanières. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et à noter, Marion, que ces nouveaux droits de douane commenceront à être appliqués ce samedi à 4h01, temps universel très précisément, alors que ce jeudi, d'autres taxes sur les voitures importées et les pièces détachées sont entrées en vigueur. Et puis une autre réaction ce matin, celle du président français Emmanuel Macron, qui annonce lui réunir aujourd'hui en urgence les représentants des filières impactées à l'Élysée.
Les bourses asiatiques ont, elles, dévissé après les annonces de Donald Trump.
Des marchés sonnés et un continent particulièrement visé. 24% de surtaxe pour le Japon, qui juge extrêmement regrettable ses barrières douanières. 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et même 54% pour la Chine, si l'on prend en compte les surtaxes déjà en vigueur. Et on retrouve d'ailleurs en direct de Pékin notre correspondante Claire Broadhurst. Bonjour Claire.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
La Chine qui s'oppose fermement à ces nouvelles barrières douanières et qui annonce déjà des contre-mesures pour préserver ses intérêts.
Et oui, car c'est un coup de massue pour la Chine, pourtant l'un des partenaires commerciaux les plus importants des États-Unis. Vous le disiez, Donald Trump a annoncé une hausse drastique des droits de douane sur les produits chinois, 34% supplémentaires aux 20% déjà en place, portant la taxe totale à 54% sur certains produits. Alors la Chine n'a pas tardé à réagir. Par la voix de son ministère du Commerce, elle appelle Washington à annuler ces mesures unilatérales qu'elle qualifie de contraires aux règles internationales. Pékin dénonce une intimidation commerciale et affirme que de nombreux partenaires dans le monde partagent son inquiétude. Ces tarifs risquent de rendre les produits chinois bien moins compétitifs aux États-Unis, ce qui pourrait freiner les exportations et ralentir davantage l'économie chinoise, en particulier dans les secteurs fortement dépendants de la demande américaine, comme l'électronique, le textile, les meubles, les jouets, ainsi que les machines industrielles et les pièces automobiles. Et Pékin pourrait riposter en imposant ses propres taxes sur des produits américains, ravivant ainsi le spectre d'une guerre commerciale à grande échelle. Et face Face à cette incertitude, certaines entreprises envisagent déjà de réorganiser leur chaîne d'approvisionnement en délocalisant hors du territoire. Un message que la Chine martèle, il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale et le protectionnisme, selon elle, ne mène nulle part, Martin.
Merci beaucoup, Cléa Bourdeur, stand direct de Pékin sur RFI. La guerre commerciale mondiale à retrouver aussi à la une de notre site www.rfi.fr. Guerre qui n'épargne décidément personne, même pas les manchots, éléphants de mer des îles Heard et McDonald, un territoire de l'Antarctique, pourtant dépourvu d'êtres humains et pourtant bien présent sur la liste de Donald Trump, ce que n'ont pas manqué de relever de facétieux internautes.
À Gaza, à présent, l'armée israélienne morcelle le territoire.
L'armée qui a commencé à s'emparer de larges zones de la bande de Gaza, notamment pour séparer les villes de Ran Younes et de Rafah. En visite en Hongrie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit dans une vidéo vouloir augmenter encore un peu plus la pression face au Hamas. Afin de les forcer à rendre les otages, l'armée israélienne prend des territoires et frappe les terroristes, a-t-il déclaré. Israël, dont les raids aériens ont par ailleurs fait au moins 30 morts ce mercredi à Gaza, selon les secours locaux.
Israël qui frappe également la Syrie.
9 civils ont été tués ce matin lors d'une incursion israélienne dans le sud du pays. C'est ce qu'indique une ONG, l'armée israélienne, qui indique qu'elle a répondu à des tirs d'hommes armés, ajoutant avoir tiré sur plusieurs combattants qui ont été éliminés dans des frappes terrestres et aériennes.
Notre dossier du jour nous mène ce matin en Haïti. Les habitants de Port-au-Prince sont en colère et le font savoir.
Des barricades érigées dans la capitale pour bloquer les principales artères de la ville, des Haïtiens venus de tout le territoire, excédés par la violence des gangs qui contrôlent l'immense majorité de Port-au-Prince. Une journée de colère contre l'insécurité. Reportage de notre correspondant Peterson Luxama.
Dès les premières heures de la matinée, les manifestants sont déjà sur pied de guerre. Machettes, pancartes à la main, une foule immense est rassemblée à Canapé Vert. Le chef de la brigade d'autodéfense de cette zone mobilise les citoyens.
Grenadiers à l'assaut !
Grenadiers à l'assaut ! Est-ce que nous sommes motivés ?
Qui va venir vous aider ?
Aujourd'hui, nous devons entrer à la primature. Aujourd'hui, il faut entrer à la villa d'accueil.
Après le rassemblement, la foule prend la direction de Musso, à Bourdon, où se trouve la villa d'accueil et la résidence du Premier ministre. Tout au long du parcours, les manifestants ont exprimé leur colère contre l'insécurité, affirmant qu'il n'est pas question de livrer leur quartier aux bandits, comme l'explique cet habitant de Fort National.
Les habitants de Crisroy, Bourdon, Turgeot et Debussy, nous nous battons contre les gangs et les kidnappeurs. Ils ne pourront pas tous nous tuer. Je ne peux pas dormir, ma maison a été incendiée et je vis avec une balle dans le corps.
Arriver à la villa d'accueil n'était pas chose aisée pour les manifestants. Le dispositif de sécurité établi dans les périmètres était de taille, les policiers allant jusqu'à faire usage de gaz lacrymogène, mettant les nerfs des manifestants à fleur de peau. Ce citoyen critique l'attitude des policiers.
Il y a un groupe de policiers qu'on ne voit jamais lorsque les bandits attaquent la population. Mais dès qu'il y a une manifestation, ils utilisent des balles et des gaz lacrymogènes. Pourtant, quand les bandits s'emparent de territoire, ils restent invisibles.
Ce mouvement de protestation a paralysé les activités dans la région métropolitaine. À Pétionville et à Delma, tout était au point mort. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
La colère à Port-au-Prince, la peur à Mirebalais.
Ville située à une cinquantaine de kilomètres, cette semaine, les gangs ont attaqué le commissariat et la prison de cette ville, libérant au passage quelques 529 détenus. Une attaque très stratégique, selon Diego Darine, expert sécurité à l'International Crisis Group, spécialiste d'Haïti.
Les gangs intensifient leur offensive sur Port-au-Prince, mais ils attaquent également d'autres villes, notamment la ville de Mirebalais, qui est assiégée depuis plusieurs jours par les gangs. Ce n'est pas la première fois qu'ils attaquent cette ville, mais ces attaques semblent d'une intensité un peu inédite. Ils essayent vraiment de prendre cette ville, qui est très stratégique pour eux. Elle se situe sur une route nationale qui communique la ville avec le nord du pays, mais également avec la République dominicaine, où sur cette route, il y a des flux de trafic illégal d'armes et de munitions qui leur permettent d'accroître leur arsenal et d'avoir le dessus sur les forces de sécurité.
Des propos recueillis par Anne Verdaguet, la situation en Haïti, à retrouver également en une de notre site internet. Rendez-vous pour plus d'informations sur le www.rfi.fr.
RFI, 13h37 à Mandalay.
Ville birmane située proche de l'épicentre du terrible séisme de vendredi dernier. Séisme qui a fait au moins 3000 morts selon le dernier bilan de la junte au pouvoir. Junte qui a par ailleurs annoncé un cessez-le-feu avec les rebelles du pays dans le but d'accélérer les efforts de reconstruction selon un communiqué. Près de 350 personnes sont elles toujours portées disparues. Sur place à Mandalay, l'aide humanitaire arrive très difficilement. Les besoins sont immenses, les travaux de recherche et de déblaiement ont à peine commencé. La population est abandonnée à son sort, Yelena Tomic.
6 jours après le séisme, les habitants de la 2e plus grande ville du pays, Mandalay, continuent les recherches de leurs proches piégés sous les décombres. Selon des témoins joints sur place, les secouristes s'affairent autour du monastère Masoi Yain et du Sky Villa Kondo, tous deux effondrés et sous lesquels sont ensevelis des dizaines, voire des centaines de personnes. Les équipes de secours sont débordées et 90% de Mandalay est comme au lendemain du séisme. Des corps en décomposition gisent dans certains quartiers de la ville. L'hôpital est débordé de patients. Le parking a été réquisitionné pour accueillir les nombreux blessés. Aucun transport dans le centre-ville, pas d'eau potable. Les habitants craignent à présent la propagation de maladies. Les températures étouffantes en journée et la ville plongée dans le noir la nuit en raison des coupures de courant ne facilitent pas la tâche des secouristes qui espèrent encore retrouver des victimes saines et sauves.
Explication de Léa Tomic du service international de RFI.
RFI 7h11 en temps universel. Les ministres des Affaires étrangères de l'AES sont arrivés à Moscou.
Des chefs de la diplomatie du Mali, du Niger et du Burkina Faso en Russie, à l'invitation de leur homologue russe Sergueï Lavrov. Une rencontre sobrement nommée première session des consultations Alliance des États du Sahel Russie, qui montre la volonté de rapprochement et l'ambition des trois pays dirigés par des putschistes de se rapprocher de Moscou. Correspondance régionale de Serge Daniel.
Partenaires privilégiés de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel demeure leur principale priorité. D'après nos informations, dans les délégations sur place figurent des responsables à des questions de défense et de sécurité. L'hôte de la rencontre devrait à son tour rassurer les trois juntes membres de l'Alliance des États du Sahel. Que ce soit sous l'étiquette du groupe paramilitaire Wagner, sous une nouvelle dénomination, ou encore par le canal de la coopération officielle, la Russie entend renforcer ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays annoncent la création d'une alliance de défense collective. Pendant la visite de 48 heures en Russie, les problèmes économiques seront également sur la table de discussion. L'un des projets phares de l'Alliance des États du Sahel, AES, est la création d'une banque régionale d'investissement. Le partenariat avec Moscou sera demandé. Dans un autre domaine, celui de la diplomatie, les deux parties, AES-Russie, pourraient définir un cadre afin de parler sur le plan international d'une même voix sur plusieurs sujets. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Loin de Moscou, les sages de l'Union africaine sont à Djouba.
Et en premier lieu, l'ancienne juge kenyane Effie Ovuor et l'ex-président burundais Domitien Ndayi Zaïe qui sont arrivés dans la capitale pour une visite de 4 jours pour tenter de désamorcer les tensions alors que l'accord de paix de 2018 est très fragilisé. Le vice-président Riek Machar est en résidence surveillée depuis plus d'une semaine alors que des combats entre ses hommes et les forces loyales au président Salva Kiir ont été rapportés ces derniers jours dans le Haut-Nil, au nord-est du pays. Le président ougandais Yoweri Museveni est attendu aujourd'hui à Djouba pour tenter de trouver une solution au conflit.
On termine ce journal en Isère, dans le sud de la France, Martin, pour un procès hors normes.
Qui oppose à Vienne la famille Grataloup au géant de la chimie Bayer Monsanto. Une sorte de David contre Goliath moderne, propriétaire d'un centre équestre. La famille Grataloup a utilisé un herbicide de Monsanto en 2006, alors que la mère de la famille Sabine était enceinte. Et en 2007, elle a donné naissance à son fils Théo qui présente de graves malformations. Les médecins vont alors faire le lien entre cette exposition prénatale au glyphosate et la maladie de Théo. Et depuis, la famille Grataloup se bat pour obtenir justice. Monsanto, qui a déjà été plusieurs fois condamné aux États-Unis à cause du glyphosate. Mais c'est la première fois que le groupe Bayer Monsanto est attaqué pour des cas de malformations, Igor Strauss.
À la question « Comment ça va ?», Théo répond sans hésitation.
« Eh bien, ça va. Le moral est bon. » Malgré, bah, comme vous l'entendez, certaines malformations et difficultés, je vis ma vie aussi bien que je le peux.
À 17 ans, il a déjà subi 55 opérations pour des malformations du larynx et de l'œsophage et une atrophie des cordes vocales qui lui donne ce timbre de voix si particulier. Sabine, sa mère, se rappelle de la naissance de Théo et de l'annonce du médecin.
Votre enfant n'a pas d'œsophage et son estomac communique avec ses poumons. C'est extrêmement violent.
En 2022, la famille Grataloup remporte une première victoire avec la reconnaissance par les experts du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides du lien entre l'exposition au glyphosate et les malformations de Théo. Mais la colère de Sabine n'est pas retombée.
Minorer la toxicité d'un produit qui va être utilisé aussi massivement que le glyphosate, c'est le pesticide le plus utilisé dans le monde. En faisant ça, ils ont condamné des enfants. Réellement, c'est criminel. Donc j'ai énormément de colère, parce que pour Théo, on peut plus rien faire. Mais le cœur de notre combat, c'est d'éviter qu'il y ait de futures victimes.
Ce matin, c'est une famille unie et combative qui se rendra au tribunal de Vienne pour tenter de faire condamner Monsanto. Igor Strauss, Vienne, RFI.
Et c'est avec Igor Strauss que se referme ce journal. Moi, je vous laisse avec Marion Cazeneuve pour la suite et la fin de RFI Matin.
Merci Martin Guez. Bonne journée à vous. Il est 9h15 à Paris, 7h15 en temps universel. Dans quelques minutes sur RFI, notre invité, Lionel Fontanier, directeur de l'Institut des politiques macroéconomiques internationales, pour analyser les conséquences de ces tarifs douaniers annoncés par Donald Trump contre la quasi-totalité des pays du monde. Donald Trump promet que ça permettra de rembourser notamment la dette. Qu'en est-il vraiment? Ce pari peut-il payer? On posera donc la question à Lionel Fontanier. On voit tout de suite ce qu'en dit la presse. Votre revue de presse internationale, Frédéric Couteau, la guerre commerciale mondiale est donc déclarée.
L'information fait la une des journaux du monde entier. Trump annonce des droits de douane de 10% sur toutes les importations et des taxes supplémentaires pour une soixantaine de pays, résume le Washington Post. Il frappe la Chine avec des droits de douane de 34%, s'exclame le Wall Street Journal. Mais nos amis japonais paieront presque autant avec 24%. L'Union européenne, elle, est frappée à hauteur de 20% et l'Inde à hauteur de 24%. Comment l'administration Trump a-t-elle fixé ces chiffres? Réponse du New York Times. Le nouveau droit de douane de chaque pays semble avoir été calculé en prenant le déficit commercial de l'Amérique avec ce pays et en le divisant par les exportations de ce pays vers les États-Unis. Et ensuite, parce que Donald Trump a dit qu'il était gentil, le montant final des droits de douane ainsi obtenus a été réduit de moitié.
Une équation sans aucune valeur économique relève le monde à Paris.
Oui, le vertige guette, s'exclame le journal. La guerre commerciale mondiale est lancée sur la base de calcul sans assise scientifique. Exemple de cette aberration, pointe le Monde. Donald Trump a évoqué le Cambodge, l'un des pays les plus pauvres du monde, à l'économie 600 fois plus faible que celle des États-Unis. Oh, regardez le Cambodge, a-t-il dit, 97% de droits de douane supposés, on va le ramener à 49%. Ils ont fait fortune avec les États-Unis d'Amérique, a-t-il osé, faisant ricaner l'assistance. Autre aberration, pointe Libération. Lancée dans sa guerre commerciale mondiale, l'Amérique pénalise maintenant des pays comme Israël, qui ne lui impose aucune barrière douanière, ou qui accuse un déficit commercial avec les États-Unis, comme le Guatemala. Aucune nation, aucun territoire n'échappe à l'ire vengeresse de Donald Trump. La Birmanie, dévastée par un terrible tremblement de terre, écope tout de même de 44% de droits de douane.
Frédéric, c'est la sidération chez les commentateurs.
Le Figaro à Paris n'en revient pas. Non content de brutaliser et d'insulter quotidiennement ses alliés historiques, Donald Trump déclenche contre eux une guerre commerciale atomique. À ce jour, en dehors d'une poignée de conseillers, personne n'en comprend l'intérêt. Toute l'histoire économique enseigne que le protectionnisme, loin d'assurer la prospérité, provoque des catastrophes en série chez l'agresseur, autant que chez la victime. Si la fermeture des frontières engendrait le bonheur, la Corée du Nord serait un paradis, s'exclame le Figaro. Le hic est qu'à ce jour, aucune des forces de rappel susceptibles de ramener le président à la raison ne fonctionne. Pas plus la chute de Wall Street que l'inquiétude manifeste des chefs d'entreprise américains censés bénéficier de cette vaste offensive. Les années 30 sont de retour, soupire pour sa part Die Welt à Berlin. Le président américain de l'époque, Hoover, avait augmenté les droits de douane sur de nombreux produits, ce qui avait finalement déclenché une guerre commerciale et aggravé la Grande Dépression de l'époque.
Alors, que va-t-il se passer aux États-Unis et dans le reste du monde?
Le Devoir à Québec s'interroge. Inflation galopante, récession, augmentation des prix pour les consommateurs. Les économistes y voient en tout cas d'énormes incertitudes qui compliquent encore davantage les négociations avec le géant américain. Pour l'OTAN, à Genève, c'est certain. Ainsi s'ouvre inévitablement une ère de protectionnisme qui fera du mal à tous. Les prix partiront à la hausse, les consommateurs le paieront. Si ces tarifs restent en place dans la durée, ils entraîneront certainement un fort ralentissement économique, les bourses réagissent, l'incertitude est au maximum. Et on revient au Wall Street Journal, pour qui on entre en effet dans une ère de risque et d'incertitude. Si les pays concernés tentent de négocier avec les États-Unis pour réduire leurs droits de douane, les dommages pourraient être moins importants. Mais si la riposte est généralisée, prévient le quotidien économique américain, il pourrait en résulter une contraction du commerce mondial et un ralentissement de la croissance, voire pire, une récession mondiale. Bref, résume le Wall Street Journal, le message de Trump est clair, la mondialisation est terminée.
La revue de presse internationale de Frédéric Couteau. Ami ou ennemi, donc personne n'y coupe. Donald Trump déclare une guerre commerciale contre le monde entier. Je rappelle ses droits de douane de 10% sur toutes les importations. D'autres pays voient ce pourcentage s'alourdir. 34% pour la Chine, qui s'ajoute aux 20% imposés en janvier. 20% 10% pour l'Union européenne, 24% par exemple pour le Japon. On ne peut pas tout détailler, mais ces mesures sans précédent portent un coup majeur au commerce mondial. Les bourses ouvrent en baisse ce matin. Et si Donald Trump est sûr que cela profitera à l'économie américaine, qu'en est-il vraiment ? On en parle ce matin avec Lionel Fontanier. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'Institut des politiques macroéconomiques internationales, professeur à la Paris School of Economics. D'abord, est-ce que pour vous, ce que vient d'annoncer Donald Trump, c'est le scénario du pire ?
Oui, oui, tout à fait. On sentait bien qu'il y avait beaucoup d'hésitation dans la préparation de ce grand plan de libération, comme il a été appelé. Mais ce qui sort est effectivement la configuration la pire, avec des droits de douane imposés sur tous les pays, très élevés. Vous avez rappelé quels étaient les pourcentages. Et compte tenu du niveau très, très élevé des droits de douane, ça va avoir effectivement un impact récessif aux États-Unis parce que nous allons avoir donc une augmentation des prix. Les consommateurs américains vont réduire leurs achats. Les entreprises américaines vont devenir moins compétitives parce que les composants qu'elles utilisent dans la fabrication de leurs produits, qui sont en grande partie importés, vont eux aussi être taxés. Donc tout ça n'est pas bon même aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle les entreprises américaines commencent à considérer que toutes ces politiques qui sont lancées par Donald Trump commencent à être très très dangereuses.
Et Lionel Fontanier, j'aimerais quand même qu'on écoute la justification du président américain.
Aujourd'hui, c'est à notre tour de prospérer. Et ce faisant, d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et rembourser notre dette nationale. Et tout cela très rapidement. Grâce à l'action d'aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir rendre à l'Amérique sa grandeur, plus grande que jamais.
Alors, il parle de rembourser les impôts et la dette nationale. Donc, pour vous, ça ne peut pas marcher ?
Non, ça ne peut pas marcher. Alors, pour deux raisons. D'une part, la première raison, c'est la taille des revenus dont on peut espérer le bénéfice pour les États-Unis, donc les revenus de ces droits de douane. Donc, on est à plus de 3 000 milliards donc, d'importation des États-Unis chaque année. Et donc, il ne faut pas du tout espérer qu'on va multiplier les 3 000 milliards par le droit de douane qui est imposé pour obtenir les recettes, parce que les droits de douane vont faire baisser beaucoup les importations américaines et, comme je l'ai déjà dit, vont conduire à probablement un ralentissement de l'économie américaine. Donc, ces deux effets cumulés vont réduire la base taxable, ce qui fait qu'on va arriver à quelque chose qui est finalement beaucoup moins élevé que ce qu'espère l'administration américaine. Il faut voir qu'en face des chiffres que je viens d'annoncer, les dépenses publiques américaines l'année dernière, c'était 6 750 milliards de dollars. Donc on est tout à fait hors de proportion. Il est hors de question de financer le budget américain avec les droits de douane. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, c'est que Donald Trump essaye d'atteindre plusieurs objectifs avec un seul instrument qui est les droits de douane. Le premier objectif, c'est celui qu'on vient de rappeler, un objectif de revenu pour le budget américain. Le deuxième objectif, c'est un objectif de réindustrialisation des États-Unis. Le troisième objectif, c'est donc freiner encore le rattrapage de la Chine. Mais ça y est, c'est trop tard. La Chine, en parité de pouvoir d'achat, a déjà dépassé les États-Unis et plus grande que les États-Unis dans l'économie mondiale depuis 2016, donc depuis presque 10 ans.
Lionel Fontanier, vous venez d'évoquer cette idée de réindustrialisation, ce défi pour Donald Trump qui veut inciter donc les entreprises à plus produire aux États-Unis. Les États-Unis, pour vous, peuvent-ils devenir l'usine du monde, comme on le disait un temps pour la Chine ? Ça marche un peu quand même, parce qu'il y a certaines entreprises, comme une entreprise taïwanaise, TSMC, qui produit des semi-conducteurs, qui compte investir 100 milliards de dollars pour construire des usines de production aux États-Unis.
Voilà, donc vous avez tout à fait raison, mais ça c'est l'objectif de long terme. Donc c'est-à-dire que lorsque les entreprises vont réviser leur plan d'investissement, et elles vont mettre beaucoup de temps à le faire en dépit des effets d'annonce en raison de la très grande incertitude sur l'économie mondiale, elles vont considérer différemment l'implantation aux États-Unis, puisque l'implantation aux États-Unis va permettre d'être derrière les barrières douanières et de bénéficier en plus de tarifs de l'énergie qui sont très bas là-bas. On a un précédent historique qui est celui des années 1970, quand l'industrie américaine automobile était en grande difficulté. Les États-Unis avaient mis à ce moment-là des quotas, donc des quantités limitées pour les importations, et ça avait conduit donc les Japonais, les constructeurs japonais, à s'implanter aux États-Unis. Donc les usines qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis, les Toyota, les Nissan, etc., sont des usines qui ont été installées à cette époque pour faire ce qu'on appelle en anglais du tarif jumping, c'est-à-dire sauter par-dessus les droits de douane pour éviter les droits de douane en s'implantant. Mais ça, c'est un pari de long terme qui fait fi de la très grande incertitude d'inquiétude et de l'impact récessif et inflationniste des mesures à court terme. Et donc, il va y avoir un petit peu une course de vitesse entre les effets dévastateurs des mesures qui ont été annoncées à court terme et leurs conséquences politiques et en termes de business aux États-Unis et cet objectif de long terme que vise donc Donald Trump en ne considérant pas les conséquences négatives à court terme.
Et Lionel Fontanier, merci, directeur de l'Institut des politiques macroéconomiques internationales, professeur à la Paris School of Economics. Merci d'être d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on continue à voir les impacts de ces tarifs douaniers annoncés par Donald Trump dans nos prochaines éditions sur RFI, notamment à 8h temps universel dans le journal. On verra quels sont les pays gagnants et les pays perdants de cette guerre commerciale. RFI 9h25 à Paris, 7h25 en temps universel.
RFI Matin.
On part à présent en Turquie pour le reportage international. En Turquie où l'opposition reste mobilisée contre le pouvoir. Elle réclame toujours la libération de son chef et maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, mais aussi celle des étudiants arrêtés lors des manifestations contre le pouvoir. Plus de 300 sont encore emprisonnés. Leurs proches et leurs avocats dénoncent leurs conditions de détention et demandent à ce qu'ils soient relâchés. Reportage à Istanbul de nos envoyés spéciaux Bertrand Eclair et Daniel Valou.
Nafia Tanriverdi allait très tirée malgré le maquillage. Depuis 10 jours et l'arrestation de son frère Baki, cette jeune comédienne n'a cessé de se battre pour lui venir en aide.
Après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, mon frère a rejoint les manifestants. Et ensuite, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. Nous avons pensé au pire des scénarios. Nous l'avons cherché partout, en allant dans les commissariats. Et finalement, nous l'avons trouvé à la fin du 2e jour. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit arrêté. Nous avons donc était très choqué.
Le jeune homme n'avait jamais participé à une manifestation de sa vie et il risque désormais de 6 mois à 3 années de prison. Sa vie a basculé comme celle de plus de 300 personnes arrêtées durant les manifestations. L'avocate Bedia Buryukebiz dénonce un abus de pouvoir et une procédure entachée d'illégalité.
Ils ont été arrêtés pour avoir refusé de se disperser à l'issue d'une manifestation non autorisée. Mais d'après la loi, ils ne devraient pas être incarcérés jusqu'à leur procès. Et pour nous, il s'agit d'arrestations illégales. La réalité, c'est que le gouvernement a peur des manifestations et ne veut pas qu'elles continuent. Il veut effrayer les étudiants et leurs parents en leur disant « Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans la rue, sinon on vous arrêtera. »
Une peur alimentée par les récits des mauvais traitements subis en détention, coups, insultes, humiliations. Une peur nourrie également par les arrestations au petit matin, au domicile des manifestants. Cette étudiante nous confie se réveiller tous les jours avec cette angoisse, voir débarquer les policiers à son domicile.
Comment la police trouve-t-elle les adresses ? Eh bien, ils doivent scanner les images filmées pendant les manifs avec la reconnaissance faciale. Et nous, pour éviter ça, eh bien, nous avons trouvé la solution. Porter des masques.
Dans ce parc d'Istanbul, à l'écart des caméras, une poignée d'étudiants discutent de la conduite à tenir en cas d'interpellation. Ils échangent des conseils et des contacts d'avocats.
Oui, nous avons tous peur, en particulier les femmes, parce que nous avons vu et entendu que la police était particulièrement dure avec les femmes. Cela me fait peur, mais cela ne m'a pas empêché de rejoindre les manifestations. Je n'aurais pas pu rester chez moi à la maison sans rien faire. Il fallait nous battre pour notre avenir et contre l'injustice.
Car il n'est pas question d'abandonner la contestation. D'ailleurs, à la libération d'Ekrem İmamoğlu s'ajoute désormais une autre revendication. La remise en liberté des 300 personnes arrêtées durant les manifestations. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul, RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Vous restez avec nous sur Radio France Internationale dans un peu plus d'une minute. Maintenant, c'est le retour de l'actualité africaine.
RFI à Pointe-Aux-Cel, 103.2 FM. Pointe Noire, 93.2 FM.
Le festival Quai du Polar revient du 4 au 6 avril à Lyon. Au programme conférences, rencontres, dédicaces, films et animations, le Polar sera à l'honneur sous toutes ses formes avec 125 auteurs et autrices invités. Parmi les invités, James Ellroy, Franck Tillier, Paula Hawkins, Sandrine Collette, Maïlys de Kerangal et tant d'autres sont à Quai du Polar du 4 au 6 avril à Lyon. Plus d'informations sur quaidupolar.com en partenariat avec RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Enquête sur les dérives de l'enseignement supérieur privé. Quand la course au rendement financier de grands groupes efface la mission d'éducation d'une jeunesse. Quelle régulation, quel contrôle des autorités?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.